de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut. Que tu préparais à la face des peuples lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il serait un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Alléluia, 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 Alléluia.
Dans leur représentation de la crèche, puisque nous voici d'une certaine façon retournés dans le temps de Noël avec cette fête de la présentation du Seigneur, dans leur représentation de la crèche, certains peintres de la Renaissance mettaient dans la crèche un crucifix. C'est d'ailleurs l'image d'un tableau que j'avais pris à Noël comme fond d'écran de mon téléphone. Une nativité de Lorenzo Lotto, 1525, un contemporain du Titien, surtout connu pour ses portraits. Où, dans sa représentation de la crèche, il y a bien sûr Joseph, Marie, l'enfant, et à l'arrière-plan, un crucifix semblable à celui qui se trouve ici sur l'autel. Alors, c'était évidemment l'usage à l'époque, comme encore aujourd'hui j'espère, de mettre dans toutes les habitations chrétiennes dignes de ce nom, une croix au mur, un crucifix. D'ailleurs, on en faisait cadeau aux époux, au jour de leur mariage. Un crucifix qu'ils mettaient au-dessus de leur lit, façon d'annoncer la couleur. Dans la crèche, cette croix en donne le sens, non pas le destin de cet enfant, mais le sens de la croix et du crucifix, c'est-à-dire d'une nouvelle naissance, d'une naissance. Nous concevons la mort comme un passage, certes, mais comme la naissance à une vie nouvelle, commencée au jour de notre baptême. Nous avons 3 naissances à vivre, à la vie physique, à la vie de grâce, à la vie de gloire. Ce sont 3 naissances qui correspondent aux 3 avènements du Christ, sa venue dans la chair, sa venue dans notre âme et sa rencontre au jour de notre mort. Comme disait Origène, à quoi me sert-il que le Christ soit né une fois de Marie à Bethléem s'il ne naît pas aussi par la foi dans mon âme ? Alors de ces trois venues, dans la chair, dans notre âme et à la fin des temps, laquelle est la plus importante ? La première, c'est évidemment la plus connue. C'est ce qui a fait la joie du temps de Noël et au 2 février, ça y est, définitivement, on range les crèches. Cette venue a changé la face de l'histoire et de l'humanité. C'est l'universalité de Noël. La troisième, c'est la plus mal comprise. Alors que ça devrait concentrer toutes nos attentes. L'idée de voir Dieu face à face, de rencontrer le Christ, de le voir dans son humanité glorifiée. Alléluia ! C'est notre espérance. Ça devrait être ce ravissement, cette joie, notre espérance qui nous porte. Et entre les deux, ce qui assure le lien de Noël sur la terre à la gloire dans le ciel, il y a ce que nous cherchons, ce que nous entendions dimanche dernier dans l'Évangile. Le royaume des cieux est tout proche de vous. Et ces deux vieillards, Siméon et Anne, que disent-ils ? Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour se convertir. Jamais trop tard pour accueillir le Seigneur. Ses promesses sont toujours récompensées. À ces deux vieillards qui sont fidèles, Dieu montre ça, ce qu'il est lui-même fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Cette fête de la présentation du Seigneur, 40 jours après Noël. Et à la fin du mois, nous commencerons le carême, 40 jours avant Pâques. C'est une façon de nous avertir, de nous secouer, de nous dire à nous qui avons reçu cette naissance à la vie de grâce par notre baptême, de nous demander ce que nous en faisons, est-ce que nous le gardons pour nous ? Nous sommes invités à faire comme la Vierge Marie qui donne l'enfant à Siméon, le corps du Christ. Amen, dit Siméon, je crois. Ces jours-ci, dans mon téléphone, j'ai mis évidemment la présentation du Seigneur comme fond d'écran. J'ai pris non pas le tableau le plus connu de Fra Angelico, mais une gravure de Rembrandt. En fait, j'ai pris deux Rembrandt. Parce que vous avez comme moi un écran de verrouillage et un fond d'écran. Alors le fond d'écran, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Et donc j'ai pris ce qui est considéré comme le dernier Rembrandt. Un portrait inachevé, Siméon de buste, lumineux, avec une grande barbe, tenant sur ses avant-bras, curieusement, l'enfant Jésus qu'il regarde. À l'arrière-plan, il y a un personnage qui pourrait être chacun de nous. Et puis, avant d'entrer dans le téléphone, j'ai pris un autre Rembrandt de la même scène, il y en a toute une série. Mais là, c'est une gravure de Rembrandt, ce qu'on appelle une eau-forte, dite à la manière noire. Un tableau, une gravure tout à fait étonnante, où Siméon est à genoux, tenant l'enfant, devant le grand prêtre. Il ne reçoit pas l'enfant de ses parents, il le présente au grand prêtre, exactement comme au moment de la passion, Jésus va comparaître devant lui. « Je t'adjure, dit le grand prêtre, par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ. » « Tu l'as dit, dit Jésus. Et dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à droite de la puissance, venant sur les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchire ses vêtements et Jésus est condamné à mort. Chaque semaine, pour la fête ou pour les textes, deux tableaux que je vais chercher pour mon téléphone. Un, donc, en écran de verrouillage, l'autre en fond d'écran. La semaine dernière, pour le dimanche de la parole de Dieu, j'avais pris en verrouillage, j'avais verrouillé le Caravage de Saint Matthieu. Saint Matthieu qui écrit sous la dictée de l'ange, somptueux. Et puis ensuite, j'avais pris un Rembrandt en fond d'écran qui est le Saint Jérôme, également inachevé, avec le lion devant lui, Saint Jérôme, à genoux, poignant, implorant le Seigneur, l'homme de la parole, de l'écriture. Essayons, tâchons de mettre un peu de beauté dans nos fonctionnalités. Bien sûr, c'est important, c'est utile le téléphone, mais quitte à le regarder tout le temps, au moins, voyez du beau. Essayez ça, peut-être pas chaque semaine, mais assez régulièrement, de mettre effectivement des œuvres d'art. Moi, cette beauté, je l'utilise également comme pénitence. Pour les personnes qui viennent se confesser, en particulier, malheureusement aujourd'hui, de consulter des images totalement inappropriées, je leur dis, écoutez, comme pénitence, vous irez au musée. Allez voir du beau, un peu pour vous nettoyer la vue. La prochaine fois que vous êtes dans une exposition, ne regardez pas les autres personnes présentes comme des pénitents. Mais, chaque semaine, demandez-vous quelle place vous avez donnée à la beauté dans la semaine. Qu'est-ce que vous avez vu, regardé, contemplé, écouté de beau. Quelle place nous donnons à la beauté dans notre vie. C'est le rôle des artistes, c'est l'hommage qui doit leur être rendu sans cesse. De transformer, y compris ce qui peut être le plus laid, le plus ordinaire, en beauté. Un des Rembrandt que je préfère, c'est une œuvre de ses débuts, 1535, il n'a pas 30 ans, le Festin de Balthazar, inspiré du livre de Daniel. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». C'est le sens de la prophétie de Siméon, l'annonce du jugement, le troisième avènement du Christ, la révélation des pensées des cœurs. Lorenzo, non pas Lorenzo Lotto, Lorenzo Cipriani, notre organiste, quand il a vu la feuille de messe avec le cantique de Siméon, il a un peu tiqué, il m'a dit « Mais on le joue d'habitude à l'encensement lors des funérailles. » Et on a raison, c'est effectivement, il est magnifique. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. C'est exactement la prière que nous disons lors des obsèques. Seigneur, la personne pour qui nous te prions a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'elle trouve en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Le festin de Balthazar, je l'aime particulièrement et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est l'opposé parfait de la présentation du Seigneur au temple. C'est, dans sa réalité historique, une scène horrible, un sacrilège. On en parle beaucoup aujourd'hui de blasphème et de sacrilège. Mais il faut voir ce que c'est cette scène. Le roi Balthazar qui fait bonbons, qui festoie avec toute sa cour, en utilisant les vases sacrés que son père, le roi Nabucodonosor, a dérobés, a pillés dans le temple de Jérusalem, en le saccageant. Et Rembrandt fixe la scène très exactement où, alors qu'il festoie, apparaît au mur les doigts, une main d'homme, qui trace une inscription mystérieuse. Mene, tekel ou farcine. Et il montre bien, ils sont tous pris d'effroi, sidérés.
Le livre de Daniel, c'est le chapitre 5, relate ce qui s'est passé ensuite. Sur les conseils de la reine, le roi fait venir le prophète Daniel, Balthazar, ou Abel-Nego, c'est-à-dire serviteur de Dieu, pour avoir l'interprétation de ce texte, de cette phrase. Mene, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ta vie et il y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé trop léger. Ou farcine, c'est-à-dire partagé, tout ce que tu as va être éparpillé, dispersé. Et cette nuit même, le roi Balthazar fut tué.
Il n'est pas nécessaire pour festoyer, ni même pour s'amuser, de profaner. Jamais nécessaire, jamais utile, toujours terrible de profaner le sacré. Nous qui fêtons dans cette fête de la présentation du Seigneur au temple, la vie consacrée, nous savons que cet enfant qui est reçu par ces deux anciens, Simon et Anne, en récompense de leur fidélité, cet enfant, 30 ans plus tard, sera celui qui pourra dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Parce que le temple dont il parlait, c'était son corps. Ce sont dans notre vie 2 chemins possibles. Soit se laisser happer, prendre par le monde, se laisser même aller jusqu'à profaner le sacré. Soit préparer la venue du Christ avec l'aide des artistes, en donnant toujours plus de place à la beauté, en demandant aux artistes de nous aider à transformer notre existence en beauté. Adorer, c'est contempler.